Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Bonsoir, vous êtes sur Scilab et vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes. Je vous apprends rien de nouveau en vous indiquant qu'on vit une période un peu particulière. Pour les gens du futur, sachez qu'en ce moment, il y a une pandémie de Covid-19 et qu'on est plus ou moins confinés. Ce qui veut dire que je suis pas dans notre cher studio, entouré de mes chers camarades, au dernier étage de Les Rêves du campus Villejean, mais chez moi, sur mon canapé, possiblement en pyjama. Comme pas mal de monde, j'imagine. À part peut-être ceux qui aident à la ferme pour ramasser les fraises, celles qui scannent les packs de lait et les rouleaux de PQ, et les autres qui laissent des mots à leurs voisins soignants pour qu'ils fassent un petit peu gaffe à pas contaminer l'immeuble en sauvant les gens. Mais c'est pas pour autant que l'équipe de J'irai cracher sur vos ondes se résigne à ravaler ses crachats. Enfin, c'est peut-être pas les bons mots là tout de suite, mais en tout cas, on va continuer à vous parler de littérature. C'est vrai, apparemment, on a désormais tout le temps du monde pour lire. Ce serait dommage de s'en priver. Ce que vous allez écouter, c'est la mise bout à bout des chroniques d'Étienne, Agathe, Marion et de moi-même, le tout entrecoupé de quelques musiques de goût. Au programme, du Disney ou presque, du young adult post-apo, des pestiférés et des zombies. On commence tout de suite avec la chronique d'Étienne.
Hello les confinés ! Alors, confinement ou non, on vous concocte une émission et des chroniques littéraires, parce qu'il faut bien passer le temps. L'occasion est idéale pour lire tout son soul, alors on compte sur vous à ce niveau. Pour ma part, j'en profite pour lire enfin des romans, pour changer des bandes dessinées. Alors, c'est pas que j'aime pas les bandes dessinées, mais les romans, ça me manquait. Alors, je commence avec des romans pas trop longs, comme quand on sort d'une longue période à travers le désert sans boire, et qu'on boit alors goutte à goutte, histoire d'éviter la déshydratation et tout simplement la mort. Ma chronique va donc porter sur un court roman, dont je vous propose le synopsis, histoire d'essayer de vous faire deviner, et je pense que vous allez le deviner, le roman que je vais vous proposer.
Au cœur du royaume de Pridin, Taram, un jeune apprenti porcher, est mécontent de son quotidien. Il rêve d'aventures et de combats à l'épée. Chargé de veiller sur la truie Envren, il est loin de se douter qu'elle est capable de prédire l'avenir. Mais voilà que l'abominable Aaron et ses sbires cherchent à s'emparer de l'animal qui prend la fuite. Taram se lance à sa poursuite, entouré de compagnons fantasques et inattendus. Une jeune princesse au caractère bien trempé, un chevalier vaillant, un barde errant, volubile et menteur, un nain râleur qui s'entête à devenir invisible et une créature aussi gloutonne qu'attachante. Taram deviendra-t-il le héros qu'il a toujours voulu être ?
Alors, n'est-ce pas évident ? Qui a la réponse ici ? J'imagine que beaucoup se disent « Non, pas possible, il existe un livre de ça !» Ce sur quoi j'ajouterais « Il existe même une série complète en 5 volumes !» Je veux bien évidemment parler de Taram et le chaudron magique, ou plutôt du cycle « Les chroniques de Pridin ». En effet, si ce cycle est un classique de la littérature jeunesse chez les anglophones, la France ne connaît l'œuvre que par son adaptation animée chez Disney, parue en 1985. À titre personnel, probablement mon Disney préféré. Il se trouve donc que les éditions Anne Carrière, éclectiques mais surtout excellents éditeurs, ont eu la merveilleuse idée de nous faire découvrir ce grand roman d'apprentissage, dédié évidemment à la jeunesse et, pourtant, à mettre entre les mains de toute personne adulte. Car, à mon sens, les chroniques de Pridin se posent comme l'équivalent grand public du Seigneur des Anneaux, de Tolkien, et comme une série arrangée aux côtés des chroniques de Narnia, autre grand classique du genre. Les chroniques de Pridin me semblent réellement à mi-chemin de ces deux œuvres cultes, du Seigneur des Anneaux par l'univers, et des chroniques de Narnia par le style et le public visé. Je vous fais d'ailleurs écouter un extrait pour vous laisser une idée de ce style, toujours lu par Soizic, que je remercie.
Taram voulait fabriquer une épée, mais Col, qu'on avait chargé de l'éducation du jeune garçon, avait une autre idée en tête. Ils avaient donc passé toute la matinée à réaliser des fers à cheval. Taram avait mal au bras et le visage souillé de suie. Il finit par lâcher son marteau pour se tourner vers Col, qui le surveillait d'un œil critique. « Pourquoi ? » s'écria Taram. « Pourquoi faut-il que ce soit des fers à cheval, alors que nous n'avons même pas de chevaux ?» Col était un homme rond et corpulent, avec un crâne chauve dont la peau rose vif brillait. Heureusement pour les chevaux, se contenta-t-il de commenter en considérant le travail de son élève. Je serais plus doué pour faire une épée, protesta Taram, je le sais. Et, sans laisser à Cole le temps de répondre, il s'empara des pinces et plaqua contre l'enclume une bande de métal chauffée au rouge qu'il se mit à marteler à un rythme effréné. « Attends, attends !» s'exclama Cole. « Ce n'est pas comme ça qu'on s'y prend. » Ignorant les protestations de son maître, incapable même de l'entendre dans le brouhaha, Taram frappa de plus belle, faisant voler des étincelles en tous sens. Mais plus il tapait, plus le métal se tordait et se déformait, jusqu'à ce que, pour finir, il s'échappe des pinces et tombe par terre. Taram contempla le résultat avec consternation. À l'aide des pinces, il ramassa la torsade pour l'examiner. « Pas très convaincant comme glaive de héros, » fit remarquer Cole.
Le style est donc incisif, direct, ce qui n'en empêche pas une élaboration fine et riche qui permet à Lloyd Alexander, l'auteur, de nous brosser de véritables tableaux et, surtout, de nous offrir des personnages extrêmement bien campés en peu de mots. Cela est possible non seulement grâce à ses talents d'écrivain, mais aussi grâce à la finesse d'esprit dont il peut faire preuve. À mon sens, une des grandes qualités de Lloyd Alexander est de mettre en scène des évolutions psychologiques fines des personnages à partir de personnalités archétypales. Vous me direz qu'il s'agit d'un processus habituel en ce qui concerne le roman d'apprentissage. Encore faut-il que cela soit réalisé avec talent, ce qui est tout à fait le cas ici. Taram est un jeune garçon épris de réussites héroïques, à l'attitude chevaleresque, mais à la sagesse toute relative, dirons-nous. Chaque chapitre est l'occasion d'une leçon pour ce courageux garçon, mais aussi au caractère emporté et maladroit. On en arrive à un volet intéressant de ce premier tome des Chroniques de Pridin, car oui, je ne l'ai pas précisé, je ne parle dans le cas présent que du premier tome du cycle. En tout cas, ce premier tome brille par les leçons que l'auteur dispense à Taram, par leur modernité surtout. Rappelons que ce premier tome a été écrit en 1964. On peut citer parmi les thèmes de la remise en cause de la figure du héros, dont on a eu d'ailleurs un petit aperçu dès la première lecture, et qui est aussi encore une proximité avec le Seigneur des Anneaux, comme d'ailleurs le petit volet écologiste, ou encore comme le personnage féminin Delon Wy, je ne sais jamais comment prononcer, une jeune princesse farouche qui remet en cause le comportement machiste de Taram, très à l'opposé de la vision donnée dans le film de Disney. Donc derrière un récit d'aventure fantaisiste au ton espiègle, un vrai régal à ce niveau, on pense par exemple à la créature de Gurgi, une sorte d'anti-Gollum hilarant, le Livre des Trois, titre du premier tome des Chroniques de Pridin, offre donc un récit d'apprentissage particulièrement intelligent et riche, comme particulièrement à lire, que l'on soit encore un petit marmot tout mimi, ou bien une vieille Décati enragée, ou bien entre les deux. Vous l'aurez compris, je vous enjoins à lire Les Chroniques de Pridin, écrit par Lloyd Alexander et édité aux éditions Anne Carrière en 5 volumes. Les deux premiers tomes sont déjà parus et les trois suivants paraîtront d'ici la fin d'année, sauf apocalypse nucléaire ou pandémie mondiale. Oups.
Merci Étienne pour cette chronique magique. Et en parlant de magie, on va prolonger le moment avec un instant musical digne des plus grandes heures de la télévision française et de la scène musicale des présentatrices télé. Mesdames et messieurs, chers confinés, je vous présente Douchka et son tube de 1985, sobrement intitulé « Taram et le chaudron magique ».
Chaudron magique. Wow.
C'était Taram et le chaudron magique. Un morceau par Douchka, et non, c'était pas le Club Dorothée. Vous êtes sur Syllab, vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes, et promis, on est toujours en 2020. Je vous propose de laisser de côté les tubes cathodiques et les récits de KPDP, pour plutôt revenir à notre réalité LCD, et enchaîner tout de suite avec la chronique d'Agathe.
La littérature et surtout la science-fiction ont toujours été un moyen efficace pour s'imaginer des possibles et ainsi anticiper certains scénarios. Oui, oui, grâce à la littérature, on peut peut-être survivre à une épidémie. À l'instar de Isaac Asimov, qui a vu se concrétiser quelques-unes de ses inventions, comme les robots, on pourrait très bien imaginer que ce qu'on lit dans Le meilleur des mondes ou dans 1984 de George Orwell se passera un jour. Mais parfois, la science-fiction nous permet aussi de relativiser ce qui nous arrive, et c'est de cela que je suis venue te parler aujourd'hui, cher auditeur. J'ai choisi pour ce faire la série Young Adult répondant au doux nom de U4, sortie en août 2015, U comme Utrecht, la ville hollandaise où est apparu le virus pour la première fois, et 4 car il s'agit de la quatrième génération du virus. Oui, tu as bien compris, cher auditeur, je vais te parler du virus. Mais celui-là est encore plus méchant que le corona, puisque en quelques jours, c'est 90% de la population mondiale qui a été tuée. Bref, à côté de U4, le Covid-19, ce serait un peu comme une petite grippe. Ah, on me souffle dans l'oreillette que cette blague a été sponsorisée par Jair Bolsonaro. Mais revenons à notre virus. Les 10% de la population restante à avoir été épargnée sont en majorité des adolescents entre 15 et 18 ans. Car ils avaient reçu quelques années auparavant un vaccin qui s'était avéré défectueux et qui avait été ensuite retiré du marché. Parmi eux se trouvent nos 4 personnages principaux, Yanis, Stéphane, Jules et Corridwen, tous membres d'un jeu de rôle en ligne, Warriors of Time. Or, juste avant la coupure d'électricité générale, tous les 4 reçoivent un message du leader du jeu, appelé Chronos, les invitant à se rencontrer le 24 décembre à Paris, afin de remonter le temps et empêcher la propagation du virus. Cela est-il possible? N'est-ce pas une grosse blague de la part de Chronos? Certains sont sceptiques, d'autres y croient. Mais ils vont tous les 4 prendre la route direction Paris. Ils ne se connaissent pas, viennent des 4 coins de la France, mais ce message et ce jeu les lient. Voici le scénario de base qu'ont mis au point les 4 auteurs de la série. Oui, j'ai bien dit 4. Chaque tome a été écrit par un auteur différent et du point de vue d'un des 4 personnages. Cependant, et c'est ce que j'ai trouvé vraiment original, le lecteur peut lire les 4 tomes dans n'importe quel ordre puisqu'ils se basent tous sur la même chronologie. Ce qui change est donc l'aventure que va vivre chaque personnage. Respectivement, Carole Trébor a écrit Jules, Vincent Villeminot a écrit Stéphane, Yves Grevet a écrit Corridwen et Florence Inkel a écrit Yanis. Tous les 4 sont des auteurs de littérature jeunesse et l'écriture de U4 a représenté pour eux un petit défi puisqu'ils sont sortis des sentiers battus grâce à l'originalité de leur chronologie et au genre du roman d'anticipation qu'aucun d'entre eux, sauf Florence Inkel, n'avait pratiqué. Cela n'a l'air de rien comme cela, mais écrire un roman à 4 mains est une tâche complexe, comme l'expliquent les auteurs, notamment dans cette interview réalisée quelques mois après la sortie du livre, en mars 2015, par Lire en Live.
C'est au fil de l'écriture en fait, qu'on s'est rendu compte de la complexité de la chose. Et parce que par exemple, bon, s'il pleut dans un des romans à Paris, il ne faut pas qu'il fasse beau dans l'autre roman au même endroit. Donc on a dû mettre en place des calendriers météorologiques pour commencer, et puis lunaires aussi, parce que comme il n'y a pas d'électricité, la lune a pas mal d'importance dans chacun des romans. Et ce qui a été aussi très très difficile, c'est de se fondre dans l'univers d'un autre. Voilà. Et par exemple, Vincent a dû fournir des plans assez détaillés, et bravo d'ailleurs, à Lyon, où il avait mis en place tout un système, ce qu'on appelle un AirPoint dans les romans. Et il m'a fourni les plans du lycée, du parc, voilà. Ensuite, Yves à Paris, et puis Carole aussi à Paris, où il y a plusieurs lieux. Voilà. Donc c'était vraiment important qu'on sache que là, il y avait telle chose, telle pièce, même tel meuble. Tout avait une importance capitale.
Comme vous pouvez le constater, rien n'est laissé au hasard. Et si on peut très bien se contenter de la lecture d'un seul des 4 tomes, on peut également prendre plaisir à comparer les différents événements à travers la subjectivité des 4 personnages, qui changent pas mal de choses et peut parfois apporter des réponses aux questions qu'on se pose. Alors, j'ai choisi de suivre le personnage de Yanis dans le tome du même nom. Il explique dans cet extrait comment est sa vie à Marseille, où il habite, juste avant de recevoir le fameux message de Chronos qui lance l'aventure.
1er novembre, fin de matinée. Une nuée de goélands vole au-dessus de moi. Ici, à Marseille, on les appelle des gabions. Je n'ai jamais vraiment aimé ces bestioles, qui se nourrissent dans les poubelles et sont capables de déchiqueter le corps de leurs propres congénères. Ils bouffent n'importe quoi. Deux d'entre eux fondent sur le cadavre. Ils se posent sur sa veste gonflée d'eau et commencent à lui piquer la nuque à coups de bec. Révoltés, je leur balance des cailloux pour les chasser. Happy m'imite et leur aboie dessus. Fichez le camp, saleté d'oiseau de malheur! Je me laisse retomber sur le banc. Les autres gabions continuent à tourner au-dessus de moi, dans l'attente de me lacérer, une fois mon heure venue. Sale crevure de bestiole. Je me sens soudain en danger, ainsi à découvert. Jusque-là, j'étais restée cachée chez moi, seulement informée par les quelques derniers flashs d'informations d'il y a déjà 4 jours, ou à peu près, quand la radio fonctionnait encore. Les dernières consignes, ne pas paniquer et ne pas quitter les villes afin de ne pas propager le virus, avaient provoqué tout le contraire, panique et tentative de désertion en masse. C'était tout ce que je savais du dehors. Je n'en sais toujours pas plus. La grande roue du quai tourna vide sous le mistral, devant l'avenue de la Canebière qui ouvre une tranchée dans la ville déserte et silencieuse. Que s'est-il passé dans la cité ces derniers jours? Où sont les autres? De l'autre côté du port, un groupe d'une dizaine de garçons et de filles sortis d'une ruelle sombre me fait signe. Ce sont les premiers survivants que je vois. Eux ne sont pas restés terrés chez eux comme les autres. Pourquoi eux ne se cachent-ils pas? J'esquisse un mouvement de recul. Ils courent vers moi, longeant le quai bordé de mer d'un côté et de voitures en vrac de l'autre, comme un embouteillage habituel par ici, mais sans insultes, ni klaxon. Happy se redresse, et moi aussi. Je distingue d'abord une casquette rouge à la visière placée de côté sur chacune des têtes. Bizarre qu'ils la portent tous pareil. Puis quelque chose dans leurs mains accroche les rayons du soleil, et une détonation retentit. Le dossier du banc vole en éclats de bois. Happy, cours, ils sont tarés! Je distingue maintenant des couteaux, des fusils ou des pistolets entre les mains de chacun d'eux. Je détale dans la direction opposée. Je ne peux pas rester ici, sur le bord de mer trop exposé. J'escalade les carcasses des voitures qui encombrent le quai, avec l'espoir de les semer dans les ruelles tortueuses du panier. C'est comme une course-poursuite de Warriors of Time, sauf que j'entends les jurons de mes poursuivants derrière moi. Sans réfléchir, je pique un sprint dans la rue Casserie. Quel crétin! Dans cette rue longue et large, les balles pourraient m'atteindre facilement. Cours, Happy! Deux vitres explosent. Je traverse la place de l'Anche, avale 4x4 les marches de l'escalier des Accoules avec mes grandes jambes. J'ai pris quelques longueurs d'avance.
Il est à noter également qu'un 5e tome est paru l'année suivante. Cette fois-ci, c'est un roman collectif, puisque les 4 auteurs y ont participé et qui est inséré 4 fanfictions écrites par des lecteurs à l'occasion d'un concours. Les 4 lauréats se sont donc vus récompensés par la publication de leurs nouvelles dans ce 5e tome, et pour ce qui est des textes écrits par les auteurs eux-mêmes, il s'agit de nouvelles approfondissant des personnages secondaires, voire des personnages qui n'apparaissent pas dans les 4 précédents tomes afin de répondre à toutes les questions du lecteur et former un univers complet. Vous l'aurez compris, la lecture de ces 5 tomes d'environ 400 pages chacun, quand même, peut occuper des après-midi entiers, mais ça tombe plutôt bien en période de confinement, non? Donc ça s'appelle U4 et c'est sorti en août 2015 aux éditions Nathan Cyrus. Et autrement, cher auditeur, moi je te souhaite une bonne soirée, un bon confinement et de bonnes lectures.
Et pour conclure cette chronique, voici le morceau qu'Agathe vous propose, Virus, de Memphis Manfire.
I feel it sinking in, it's underneath my skin, straight through my blood into my bones. I taste it on my tongue, this poison fills my lungs, but I won't let
remember why I'm still alive.
C'était Virus par le groupe Memphis Mayfire. Vous êtes sur Scylab et vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes, version confinement. On poursuit notre émission avec la chronique de Marion.
Bonjour à toi, auditeur confiné. Voilà, moi je te parle depuis mon garage. Alors il paraît que le confinement c'est le moment de choix pour lire les classiques qu'on n'a jamais eu le temps de lire avant. Vu le contexte, évidemment, j'ai choisi La Peste de Camus. Pour résumer schématiquement, le roman est rythmé en 5 parties, 5 temps, de l'arrivée d'un mal mystérieux poussant des milliers de rats à venir mourir dans toute la ville d'Oran, jusqu'à la levée d'une quarantaine qui aura duré plusieurs mois, et la fin donc d'une épidémie de peste qui aura fait des ravages. L'épigraphe du roman, avant le début de l'histoire donc, nous dit qu'il est aussi raisonnable de représenter une espèce d'emprisonnement par une autre que de représenter n'importe quelle chose qui existe réellement par quelque chose qui n'existe pas. Et alors, bon, comme c'était déjà ce que j'avais l'intention de faire et que j'y étais même invitée par l'auteur, j'ai pas résisté et je me suis amusée à remplacer le mot peste par le mot coronavirus. Et vraiment, c'est à croire que Camus, en fait, c'est Nostradamus. Ou bien Camus, c'est Nostradamus. Non, putain, le français est vraiment pas logique. Et pardon pour cette blague merdique. Bref, tout ça pour dire qu'il y a pas mal de choses dans le livre qui collent effectivement avec la situation actuelle. Et bon, j'arrive avec un train de retard parce qu'évidemment, c'est déjà été noté par beaucoup de gens. D'ailleurs, Wikipédia me dit dans l'oreillette que les ventes de La Peste ont subitement augmenté depuis le début de la pandémie. Bon, alors déjà, dès le début du roman et avant même l'apparition de la maladie, on se dit qu'il y a déjà pas mal de ressemblances avec la société décrite et la nôtre. Je cite « Nos concitoyens travaillent beaucoup, mais toujours pour s'enrichir. Ils s'intéressent surtout au commerce et ils s'occupent d'abord, selon leur expression, de faire des affaires. Naturellement, ils ont du goût aussi pour les joies simples, ils aiment les femmes, le cinéma et les bains de mer. Mais, très raisonnablement, ils réservent ces plaisirs pour le samedi soir et le dimanche, essayant, les autres jours de la semaine, de gagner beaucoup d'argent. » Alors, on a une autre ressemblance. Une fois l'épidémie commencée, avec la réaction des autorités, tardive, et les premières mesures qui sont prises, peureuses. Par exemple, avec, je cite, de petites affiches blanches que la préfecture avait fait rapidement coller dans les coins les plus discrets de la ville. Il était difficile de tirer de cette affiche la preuve que les autorités regardaient la situation en face. Les mesures n'étaient pas draconiennes et l'on semblait avoir beaucoup sacrifié au désir de ne pas inquiéter l'opinion publique. L'exorde de l'arrêté annonçait, en effet, que quelques cas d'une fièvre pernicieuse, dont on ne pouvait encore dire si elle était contagieuse, avaient fait leur apparition dans la commune d'Oran. Ces cas n'étaient pas assez caractérisés pour être réellement inquiétants, et il n'y avait pas de doute que la population saurait garder son sang-froid. Néanmoins, et dans un esprit de prudence qui pouvait être compris par tout le monde, le préfet prenait quelques mesures préventives. Comprises et appliquées comme elles devaient l'être, ces mesures étaient de nature à arrêter net toute menace d'épidémie. En conséquence, le préfet ne doutait pas un instant que ses administrés n'apportassent la plus dévouée des collaborations à son effort personnel. Donc dans cet extrait, on reconnaît avec délectation, hein, à travers le discours indirect du préfet, le langage que nos propres politiques nous ont tenu à peu de choses près. Vous savez ce fameux mélange de formulations creuses et d'injonctions contradictoires, miam. Mais bon, la réaction de la population aussi est assez proche de la nôtre. Hein. Je cite « Ce n'est qu'à la longue, en constatant l'augmentation des décès, que l'opinion prit conscience de la vérité. » Mais cette augmentation n'était pas assez forte pour que nos concitoyens ne gardassent au milieu de leur inquiétude l'impression qu'il s'agissait d'un accident sans doute fâcheux, mais après tout temporaire. Et donc ce qui est intéressant en fait du point de vue de l'observation, c'est cette histoire de l'évolution des avis et des attitudes face à l'épidémie. Et finalement, qu'elle soit de peste ou de coronavirus, la trame narrative est assez ressemblante entre l'inertie de nos habitudes et la déstabilisation apportée par l'épidémie et les mesures qui l'accompagnent. Et rien que pour ça, le livre permet de prendre énormément de recul et c'est déjà pas mal. Bon, dans le bouquin, par contre, la quarantaine de la ville dure bien 9 mois. Donc, bon, voilà. Après, bon, comme Camus n'avait pas prévu pour le PQ, peut-être qu'il se sera aussi gouré sur la durée du confinement. Hein, on croise les doigts. Alors, à l'époque de l'apparition, en 1947, tout le monde avait fait le parallèle entre la peste et le nazisme. Camus n'avait pas réfuté, mais il avait aussi dit que le livre était plus que ça, sous-entendu, la métaphore est plus large. Peste, nazisme, coronavirus. En fait, je me suis rendu compte que le mot crise fonctionnait aussi pas mal et que c'était une bonne manière de trouver un sens générique qui colle à la fonction révélatrice de ce que les cathos vont plutôt vouloir appeler un fléau. La peste, comme le coronavirus, comme toute crise, a donc une fonction révélatrice à côté de laquelle on peut difficilement passer, tout est exacerbé. Les inégalités sociales, par exemple, parce que la maladie et les mesures prises en conséquence ont un impact différencié selon qu'on est pauvre ou riche. Selon qu'on habite en ville ou à la campagne, il y a plein de choses qui jouent. Et les choix individuels d'engagement aussi. Ces choix-là, ils sont représentés dans le roman par plusieurs des personnages qui ont tous un parcours différent. Il y a ceux qui étaient déjà engagés avant, ceux qui s'y mettent naturellement quand la crise débute, ceux qui attendent que le choix se fasse plus pressant, ou bien ceux encore qui s'adaptent et qui se satisfont finalement très bien de la situation. Je ne vise personne. Camus fait intervenir des personnages donc tous différents les uns des autres, affectés différemment par l'épidémie de peste. Et ces portraits de personnages, ils touchent toujours quelque chose de juste qu'on a pu sentir chez quelqu'un sans nécessairement le formuler aussi clairement que l'auteur. Et le narrateur du roman nous fait part lui-même de cette intention de faire varier les points de vue sur le récit et de ne pas trop faire intervenir ses propres pensées et sentiments. Je cite... Étant appelé à témoigner à l'occasion d'une sorte de crime, il a gardé une certaine réserve, comme il convient à un témoin de bonne volonté. Mais en même temps, selon la loi d'un cœur honnête, il a pris délibérément le parti de la victime et a voulu rejoindre les hommes, ses concitoyens, dans les seules certitudes qu'ils aient en commun, et qui sont l'amour, la souffrance et l'exil. C'est ainsi qu'il n'est pas une des angoisses de ses concitoyens qu'il n'ait partagée, aucune situation qui n'ait aussi été la sienne. Pour être un témoin fidèle, il devait rapporter surtout les actes, les documents et les rumeurs. Mais ce que, personnellement, il avait à dire, son attente, ses épreuves, il devait les taire. S'il s'en est servi, c'est seulement pour comprendre ou faire comprendre ses concitoyens et pour donner une forme, aussi précise que possible, à ce que la plupart du temps, il ressentait confusément. À vrai dire, cet effort de raison ne lui a guère coûté. Quand il se trouvait tenté de mêler directement sa confidence aux 1000 voix des pestiférés, il était arrêté par la pensée qu'il n'y avait pas une de ses souffrances qui ne fût en même temps celle des autres, et que dans un monde où la douleur est si souvent solitaire, cela était un avantage. Décidément, il devait parler pour tous. Voilà, cette chronique touche à sa fin. J'espère que vous avez compris que c'était une bonne idée de lire La Peste si vous êtes confiné et si vous avez du temps. Parce qu'en tant que privilégié du confinement, il est presque de votre devoir d'enrichir votre jugement plutôt que de pondre du contenu quotidiennement et de noyer l'humanité dans un océan de merde, virtuel certes, mais quand même. Je vise personne, hein, ni Leïla Slimani, ni Marie Dariussec, ni Sylvain Tesson. Non, non, non. Aucun de tous ces apprentis journalistes du confinement qui ont réussi l'amalgame magique entre leur nombril et leur rectum. La suite, pour vous, si vous décidez de lire La Peste, c'est de poursuivre par la lecture de L'Homme révolté, puis par Les Justes, et ainsi d'aller jusqu'au bout du cycle de la révolte. Normalement, à la fin des Justes, vous serez prêts. Mais prêts à quoi, vous me direz? À vous de voir. Mais la peste, le coronavirus ou la crise sont sources de souffrance et de bouleversements radicaux. Ça a un petit parfum de révolution, ça, non?
J'espère que maintenant vous êtes prêts pour faire la révolution avec cette superbe chronique de Marion. Mais avant... un peu de musique avec Je pète les plombs, un morceau de This is la peste.
Putain, je transpire, pire, je suis en translé. Transport bloque, ça klaxonne, ça fait 2 heures que je n'avance qu'à petit feu, peu à peu, je pète les plombs. Le pauvre de derrière m'insulte et me traite de con. Sans les trous, je sors de ma caisse, prends mon sac dans le coffre et me casse. Laisse ma caisse sur le périph', rien à foutre, je trace. Trop de stress, j'ai trop faim, il me faut un McDo, j'en trouve un rentre. Y'a une queue de bâtard, mais bon, je la fais. 30 minutes plus tard environ, je demande très poliment. Bonjour, un Mac Morning, s'il vous plaît, quand elle me répond, trop tard. Désolé, monsieur, il est midi, et après-midi, eh bien le Mac Morning, c'est fini. je lui dis. Quand je vous ai demandé, il était 11h59. Faites un effort, je veux un morning salé, vous savez celui avec l'œuf. Elle me dit, il est midi, je vous l'ai dit, c'est fini. Prenez un Big Mac ou allez voir ailleurs si j'y suis. Je lui dis, appelez-moi le patron n'est pas là. Ajoute, allez chez le chinois, vous pourrez peut-être prendre un plat. Je lui dis, deux secondes, sort de mon sac un calibré, la braque. Les gens derrière, qui étaient si impatients, maintenant s'écartent. Elle me dit, ok, prenez la caisse, moi je veux pas mourir, y'a plein de billets, plein de pièces. Je lui dis, un Mac morning où je tire. Trois minutes après, ma bouffe est prête et je m'apprête à partir. Quand la pute me dit, j'ai mis un Big Mac, t'aurais jamais dû le dire. Je voulais juste un Mac morning.
Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs, mais je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon job. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon job. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète des plombs, mais je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon job. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon job.
Alors, je suis recherché. Que les keufs me traquent, v'là qu'une meuf me drague. La go blague, me dit des trucs vagues.
Elle me dit,
tu sais que t'es un beau blague. Non, je t'assure sans deck. Dès que je t'ai vu, j'ai oublié mon mec.
Je
de qui tu te moques. Toi, tu veux ma quéquette. Tu veux que je te fanque, que je dépense plein de petites pépettes. Qu'une fois les couilles vides, je porte le même jean. Tu mets ton beurre, tes copines avec ma maille, vous direz chin chin, salope. Va voir ailleurs parce que moi je t'ai grillé. Mon ex m'a fait pareil.
Et alors?
Alors tu peux te tailler. Au moment où je dis ça, le métro s'arrête et je m'apprête à partir. Quand elle a répondu un truc qu'elle aurait pas dû dire.
M-T.
Pour qui tu te prends? Mais c'est normal qu'elle t'ait jeté de façon avec ta tête de con, t'as du tout lui acheter.
Et là, je suis un beau black.
Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs, mais je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon job. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon zone. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs, mais je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon job. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon zone.
Je veux ta veste, tes baskets, ton sac, ta carte de retrait, ton chéquier et ton sandwich.
C'est ce que le gars m'a dit alors que je rentrais au quartier. Je lui dis, laissez-moi, j'ai passé une sale journée. Ils me disent, s'excite et s'énerve tout seul. Me sort un mousse, fait le ouf et d'après lui, il me pressionne.
Je que t'as dans ma tête.
C'est fou dans sa tête.
Je réponds, putain, espèce de saltimbanque. Arrête ton bluff, mec, tu crois que tu braques une banque. Range ton canif, je sais pas, va faire une manif. Va t'acheter un soutif, espèce de petit travelot chétif.
Mais attends toi, tu viens de quel quartier?
Sortez ici.
Faut payer pour sortir entier.
Je lui dis, écoute mec, rien à foutre, nos quartiers sont en guerre. Attends, je vais te payer après tyranniquer ta mère. Sors de mon sac de hockey, un harpon, il me dit.
Ah bon?
Moi je suis le genre de mec qui pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon job. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon zob. Le gaz baisse, je lui dis mais vas-y casse-toi. Arrivé à 100 mètres, ces petits PD me font des doigts.
Putain, je pète les plombs, putain, je pète les plombs, même je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon job. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon zone. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs, putain, je pète les plombs, même je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon job. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon zone. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs, même je pète les plombs. J'ai perdu, ma femme, mon gosse, mon job. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon zone. Putain, je pète les plombs, putain, je pète les plombs. J'ai ouvert du ma femme, mon gosse, mon job. J'ai plus rien à perdre, alors je fais si
je viens. Je suis un zoï.
C'était Je pète les plombs, un morceau de Dizzy la peste. Vous êtes sur Syllab, vous écoutez Jerry Craché sur vos ondes, et maintenant, c'est à mon tour de faire ma chronique. Je vais tout d'abord vous raconter un peu comment m'est venue l'envie de faire cette chronique. Tout a commencé lorsque j'ai entendu Macron à la télé.
Déjà, vous vous calmez et vous m'écoutez. Le vrai problème est que c'est notre faute. Oui, on paie pour ce qu'on a fait. Nous avons créé un terrain propice au développement du virus. Nous sommes en guerre, monsieur le Premier ministre. Les militaires connaissent bien cette règle. On doit laisser mourir les mourants.
Avec le monde entier qui nous regarde.
Quand on sait mentir, on peut se permettre de faire ce qu'on veut. Déjà, vous vous calmez et vous m'écoutez. Le vrai problème est que c'est notre faute. Oui, on paie pour ce qu'on a fait. Nous avons créé un terrain propice au développement du virus. Nous sommes en guerre, monsieur le Premier ministre. Les militaires connaissent bien cette règle. On doit laisser mourir les mourants.
Avec le monde entier qui nous regarde.
Quand on sait mentir, on peut se permettre de faire ce qu'on veut.
Intense, le Manu. On m'a dit que dans l'oreillette qu'il s'agit d'un extrait de Doomsday, un film post-apo de Neil Marshall. Bon, ça fera l'affaire. Que ce soit le discours présidentiel français ou l'échange fictionnel entre les ministres britanniques, ce que j'ai retenu en substance, c'est ça. Nous sommes en guerre. Moi, quand j'entends ça, je commence à paniquer. Je me dis qu'il faut qu'on se prépare. Mais que faire? Créer une tour de défense en rouleau de PQ?
confectionner un arc en spaghetti. Je sens bien qu'en tant que membre du sexe faible, je suis dépassée par ces terribles événements. La pauvre femelle que je suis doit s'en référer à la parole d'homme sage et pragmatique si elle ne veut pas céder à la panique. Ou pire, à l'hystérie. Direction à la bibliothèque. Ah, mince, c'est fermé. Bah, je vais devoir faire avec les moyens du bord, en l'occurrence avec les livres dont je dispose à la maison. Je finis par isoler deux ouvrages qui ont le potentiel pour me sortir de cette situation désespérée. Première trouvaille, le 8e volume du manuel des castors juniors. Bon, réflexion faite, je sais pas si l'identification des fleurs et des nuages va me permettre de tenir jusqu'à l'hiver. Alors désolé mes petits canards, mais je me concentrerai plutôt sur le guide de survie en territoire zombie. Un livre signé Max Brooks. Alors certes, l'épidémie Covid-19, c'est pas tout à fait une invasion zombie, mais là au moins, on parle de survie, des techniques, stratégies et tactiques pour la garantir. Et puis entre nous, la quatrième de couverture a le don de me rassurer.
Ne prenez pas à la légère votre bien le plus précieux, votre vie. Ce livre contient toutes les clés pour survivre aux hordes de morts-vivants qui s'approchent de vous en ce moment même, proposant des exemples précis et des astuces reconnues par des experts de renommée internationale. Le guide de survie en territoire zombie vous donne la conduite à tenir en toutes circonstances pour vous tirer d'affaire, vous et vos proches. Ce livre peut vous sauver la vie.
Allez, je suis sympa, je vous fais un petit résumé. Pour le profil, je vous conseille d'être cavalière Galo 7, niveau Alexandra Lenderman, les vrais savent. Et bon, en bonus, tirez à l'arc Katniss style. Ou alors, il vous reste plus qu'à devenir un militaire surentraîné, genre Rambo, qui a laissé tomber sa M60 pour lui préférer un fusil à culasse mobile, idéalement équipé d'un silencieux et d'un viseur télescopique. Niveau planque, si tu veux rester dans ton appart, t'as intérêt à pouvoir dézinguer tout le premier étage. Sinon, bah, il te reste à te planquer dans une prison, un navire isolé, une base militaire, ou alors tu peux juste aller couler des jours paisibles au cimetière. De préférence, ceux qui ne sont pas tenus par des radins, car si les morts-vivants sont enterrés à 3 cm de profondeur dans des sacs de jute, ça va être un peu compliqué. D'ailleurs, c'est bizarre. Car à la lecture de ce passage, l'auteur auparavant aussi rigoureux et précis ne semble pas tenir compte de la bassesse de notre espèce. Pour lui, c'est certain, nos cadavres sont sipés sous terre dans des caissons en pin, voire en métal. Sa naïveté pourrait presque m'inquiéter, si toutefois elle était crédible. Pourtant, ailleurs dans ce livre, Max Brooks ne se prive pas de nous signaler la défaillance humaine et la compétence de certains services. J'en veux pour preuve ce passage, page 135, où il nous décrit l'état de sécurité des mairies et bâtiments municipaux.
On appliquera ici les mêmes principes que pour les commissariats, les hôpitaux, les lieux de culte. Les humains paniqués y déferlent en masse et la situation y tourne inévitablement au chaos le plus indescriptible, avant de finir en joyeuse congrégation zombie. Évitez donc les bâtiments officiels autant que possible.
Plus loin, il rajoute
« Les bâtiments construits dans les zones les plus riches privilégient plutôt l'esthétisme. Pourquoi le maire d'une ville prospère voudrait-il d'un immeuble hideux dans son quartier ? Les gens influents n'apprécient pas les constructions laides, trapues et sûres. Ils ont tendance à faire confiance à la police et aux sociétés de gardiennage, deux organismes à l'inefficacité notoire. »
Non, décidément, il y a quelque chose qui cloche. Et là, on n'est pas sur de l'anguille sous du rocher, mais plutôt format baleine sous gravillon. Je me décide donc à entreprendre quelques recherches sur les internets, ou plus précisément, sur Wikipédia. Mais oui, c'est ça. J'ai trouvé. Max Brooks a le comique dans les veines. Bon, peut-être que Max, ça vous dit rien comme ça, mais il y a de fortes chances que si je vous dis Mel Brooks, tout de suite, vos oreilles devraient siffler. Mel Brooks, c'est le géniteur de Max, mais également le créateur de pas mal de trucs bien bidonnants, tels que Sacré Robin des Bois. On s'écoute tout de suite un petit extrait pour se rappeler de ce que c'était Sacré Robin des Bois.
Une chose pareille ne se serait jamais produite si votre père était encore en vie.
Oui, et maman?
Elle nous a été enlevée par une pneumonie. Ah, mais c'est vrai, vous étiez en voyage.
Et mes petits frères?
Ils ont tous succombé à la peste noire.
Médor, mon chien loup?
Écrasé par une charrette.
Mon poisson rouge?
Mangé par la chatte.
Ma chatte?
Elle s'est étouffée en avalant le poisson rouge.
Oh, quelle joie de retrouver la douceur du foyer, hein, monsieur Robin?
Il faut que je fasse un vœu, c'est un signe. Par la robe de cet oiseau bleu, que le ciel exauce mon vœu et conduise jusqu'à moi sans plus tarder l'homme de belle mine et de gens de manière qui possédera la clé de mon cœur. Oh, adieu, belle amie.
Il s'est fait jeter en cabane par une reine afghane qui, haïssant Robin, le pendra demain. Je te dis hey, hey. Je te dis hey,
hey.
Je te te dis hey. C'est génial.
On n'est pas là pour voler aux plus riches pour donner aux plus pauvres, encore que ça pourrait nous être utile pour financer des hôpitaux, mais on va revenir, si vous le voulez bien, au guide de survie en territoire zombie. C'est un sympathique petit ouvrage d'un peu plus de 300 pages, et une petite merveille de pastiche qui ne se prive pas de travestir les effets du réel. On peut citer par exemple les petits dessins et schémas dignes des affiches du lapin du métro parisien, les couleurs en moins, une table des matières extrêmement développée pour indiquer que l'on passe en revue tous les cas de figure et étudie chaque possibilité, c'en est presque risible tellement il en fait trop, mais on peut aussi souligner les citations qui ouvrent les différents chapitres de l'ouvrage, comme par exemple celui qu'on peut lire en prémisse du chapitre 2, Armes et techniques de combat.
Il y en avait une bonne vingtaine, hommes, femmes et enfants. On a ouvert le feu à environ 70 mètres, peut-être 80. Les morceaux de chair volaient dans tous les sens. Tous nos tirs portaient, et eux, ils continuaient à s'approcher. Ils continuaient comme si de rien n'était. J'en ai visé un et je lui ai vidé mon chargeur dans le bide. J'ai immédiatement su que je lui avais pété la colonne vertébrale parce qu'il est tombé comme une pierre. Mais il a continué à ramper vers moi, avec les jambes tordues dans le mauvais sens. À 20 mètres, on a décidé de se servir du vector. Rien. J'ai vu des membres et des os arrachés, giclés un peu partout. Je l'ai regardé se faire littéralement scier les membres, comme ça. Le SS-77 est le meilleur fusil d'assaut de tous les temps. 840 mètres par seconde, 800 coups minute. Et ça servait à que dalle. On leur a balancé toutes nos grenades, et on n'en a descendu qu'un seul. Un seul. Et son corps est resté par terre avec ses dents qui claquent encore. Marcel s'est pointé avec son RPG. Sa foutue roquette a juste traversé sa cible, comme ça. Et elle a explosé contre les rochers. Finalement, à 5 mètres, on a vidé les réservoirs de nos lance-flammes. Ces fils de pute ont cramé comme des torches, mais ça les a pas arrêtés. L'un d'entre eux s'est jeté sur Pascal et lui a foutu le feu en lui mordant le cou. Je les ai vus se précipiter sur lui alors qu'on se tirait vers la jungle. Une horde de corps enflammés qui se disputaient les restes hurlants d'une torche humaine. Putain de bordel de sa mère la pute. Qu'est-ce qu'on était censé faire ? Un mercenaire serbe pendant la guerre civile zaïroise, 1994.
Et parce que ça ne suffisait pas, eh bien, l'auteur aime bien dénoncer. En tant qu'auteur américain des années 2010, le vitriol de sa plume se destine en premier lieu à la culture US qui a fait de la voiture, de la paresse et des gros guns un mode de vie à part entière. Ce n'est pas tant une dénonciation qui s'articule en de longs paragraphes, remontées explicites et politiques, mais plus au détour des lignes, des petites punchlines adressées ici et là. Par exemple, ce moment du texte où il passe en revue les armes, celles à privilégier, celles à éloigner, où il ne se prive pas d'un petit commentaire sur les lobbies militaires.
Les bâtiments construits dans les zones les plus riches privilégient plutôt l'esthétisme. Pourquoi le maire d'une ville prospère voudrait-il d'un immeuble hideux dans son quartier ? Les gens influents n'apprécient pas les constructions laides, trapues et sûres. Ils ont tendance à faire confiance à la police et aux sociétés de gardiennage, deux organismes à l'inefficacité notoire.
En définitive, je ne sais pas beaucoup plus comment survivre à l'épidémie, qu'elle soit due au coronavirus, aux zombies ou à Macron. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment et j'ai un petit peu moins pensé à mes angoisses. C'est déjà la fin de notre émission. Un grand merci pour les lectures à Soizic et Théo. J'irai cracher sur vos ondes, revient la semaine prochaine, toujours en version bricolage maison, et ce, jusqu'à la fin du confinement. Avant de se quitter, je vous mets un peu de musique. Poisson d'avril ! On se quitte sur Rocket Number 9 de Zombie Zombie. Restez sur celui-là pour des surprises plus savoureuses que des sardines.
place.